Ma mère n'est pas un meuble, c'est publié le 25 juillet par Ariane Lacourcière à la presse. Vraiment un article touchant. Victime en avril d'une chute dans la résidence pour aînés où elle habitait depuis peu à Montréal, Marie-Josée Beaudoin a déjà subi 4 déménagements depuis. Et la dame de 91 ans pourrait vivre encore 2 autres déménagements dans les prochains mois. Une situation inacceptable selon ses proches. Madame Beaudoin, c'est l'ex-femme de l'éditeur Alain Stanquet. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle habitait jusqu'en avril dans une résidence privée pour personnes âgées autonomes, mais voyant son état de santé décliner, ses quatre enfants ont convenu de la réinstaller à la résidence Héritage Plateau sur la rue Rachel Est. Cet établissement de 120 places accueille des aînés semi-autonomes. Et ça tombait bien, car Mme Beaudoin s'est rapidement plu dans son nouveau petit studio de 2,5 pièces, abondamment fenestré. La dame, qui a été artiste peintre, a pu suspendre certaines de ses œuvres au mur. Mais à peine 10 jours après son arrivée, elle a été victime d'une chute et a subi une importante commotion cérébrale. Elle a été hospitalisée au CHUM, puis est allée en centre de réadaptation, relate Brigitte Stanquet. Peu avant la sortie de Mme Beaudoin du centre de réadaptation début juillet, les enfants Stanquet apprennent que la résidence Héritage Plateau ne reprendra pas leur mère. La seule option pour éviter le CHSLD serait d'installer Mme Beaudoin dans une résidence privée offrant plus de services. Mais attention, la facture irait de 8 000 à 10 000 $ par mois. Au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, on précise qu'une personne âgée hospitalisée doit être transférée en CHSLD, doit avoir donc une place en moins de 7 jours selon des orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et toujours selon ces orientations, si cette personne retourne chez elle ou en résidence pour aînés et reçoit des soins de son CLSC, le temps pour obtenir une place en CHSLD, c'est de 21 jours. Oui, ça permet de libérer des lits rapidement, mais ça fait aussi qu'on garoche des gens n'importe où, martèle Brigitte Stanquet, des gens fragiles. Ce n'est pas un meuble, c'est ma mère. Denis Laliberté gravira le mont Albert malgré son handicap, publié donc le 26 juillet par Isabelle Fillon à la Tribune. Rendre l'inaccessible accessible, c'est ce que souhaite faire Fernand Courchesne et son équipe en grimpant l'imposant Mont-Albert en Gaspésie, en amenant avec eux Denis Laliberté, un sportif paraplégique, qui pourra atteindre ce sommet en joëlette. Il s'agira d'une première à la connaissance de M. Courchesne. Une équipe d'environ 10 personnes se relaiera ce week-end pour porter cette sorte de fauteuil adapté doté d'une roue dans laquelle prendra place Denis Laliberté, qui vit en fauteuil roulant depuis 27 ans à la suite d'un accident sur sa ferme. La roue est centrée pour porter le poids de la personne, décrit-il. L'ascension du Mont Albert, un mont de plus de 110 mètres, doit avoir lieu samedi ou dimanche, selon les conditions météorologiques. Chargé de projets pour l'accessibilité à la ville de Victoriaville, Denis Laliberté n'aurait pas pu rêver d'une telle randonnée il y a 10 ans. Or, le plein air tend à devenir de plus en plus accessible pour les personnes en mobilité réduite. C'est aussi la mission qu'il se donne. On estime environ à 15% le nombre de personnes handicapées au sein de la population. Alors, Monsieur Laliberté souhaite que cette proportion soit représentée dans les événements sportifs. Denis Laliberté fait lui-même de la course en fauteuil roulant et participe à des marathons et demi-marathons. L'homme de Victoriaville effectue entre 3500 et 4000 km d'entraînement par année. Wow! En fauteuil roulant, il faut le faire, hein? L'objectif s'avère de commencer avec de petits sentiers, dit celui qui fait sa première course en joëlette sur une distance de 5 km. Cette course-là. Et on a rendu un sentier inaccessible accessible. Ça prend toute une équipe. Et là où je vais, je veux que mes amis à mobilité réduite puissent y aller, observe Fernand Courchesne, qui parle de l'acropole des draveurs. Et enfin, Patricia Paquin ouvrira un deuxième restaurant à Sainte-Julie. C'est publié le 26 juillet par nightlife.ca. Alors que Patricia Paquin était présente parmi les invités de l'émission Bonsoir, bonsoir à Radio-Canada, celle-ci a annoncé une nouvelle très excitante. Lorsqu'elle était en entrevue avec Sonia Benezra, Patricia Paquin a dévoilé qu'elle allait ouvrir un deuxième restaurant chez Cheval, de type café, dans la ville de Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal. Avec ce nouveau restaurant, elle souhaite offrir une expérience unique aux clients. Et en plus, son fils Benjamin aura l'opportunité d'y travailler. C'est un café où l'on engage des gens qui sont dans le spectre de l'autisme. Pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns. Je vais les gâter, on va s'amuser, ça va être bien cool, a-t-elle affirmé avec joie en entrevue. Patricia Paquin défoilait notamment qu'elle adore aller au restaurant tous les matins et y jouer la barista. Une nouvelle aventure qui commence. Deux films marquants du cinéma québécois. À tout perdre de Claude Jutras, qui date de 1963, et Il était une fois dans l'Est d'André Brassard et Michel Tremblay de 1974. Ce sont des œuvres importantes de notre cinématographie au Québec. Ces films mettent en valeur des questions identitaires cruciales. L'identité québécoise et l'identité queer. Mon invitée est détentrice d'une maîtrise en cinéma de l'Université Concordia. Ces deux films ont fait l'objet de sa thèse de maîtrise. Mais là, je vous rassure, elle a publié un livre, mais c'est pas sa thèse de maîtrise, elle l'a adapté. Donc, un livre qui s'intitule « À tout perdre, il était une fois dans l'Est ». C'est publié dans la collection Queer Film Classique au McGill Queen's University Press. Je reçois donc Julie Vaillancourt. Bienvenue à l'émission.
Merci, Lenny.
Alors, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Ça se lit très bien, je dois dire. Je te fais pas des compliments gratuits parce que je suis très difficile quand je lis des livres.
C'est bon, merci.
Alors, pourquoi ton intérêt pour ces deux films?
Ben pourquoi ces deux films-là? Mon intérêt remonte lorsque j'étais un petit peu plus jeune, là, il y a une vingtaine d'années, justement, quand j'étudiais.
Bon, tu ne devais pas être vieille quand tu étais à l'université, toi.
Merci. Quand j'étudiais à Concordia, en fait, donc j'ai découvert ces deux films-là à ce moment-là dans mes cours de cinéma. Puis il faut dire que les deux m'ont touché pour deux raisons quand même sensiblement différentes. À tout prendre de Jutras, ben d'abord pour sa forme artistique, on s'entend. Donc c'est un film important du cinéma direct, qui pollinise donc la fiction, le documentaire à la fois. Donc, il y avait ça. Puis, il y avait évidemment cette fameuse confession. Donc, à mi-film, hein, on a donc Claude Jutras qui se fait demander par Joanne. Donc, Joanne, sa copine noire du moment, haïtienne, qui est aussi en recherche d'identité.
Ça aussi, c'est intéressant parce que je pense que c'était une des rares fois qu'on voyait un couple interracial aussi.
C'est une des premières fois au Canada là, en termes de représentation au cinéma. Et donc, Joanne va demander à Claude, donc, est-ce que tu aimes les garçons? Et donc, il va répondre, je ne dis pas oui, pas plus que je dis non. Donc, c'est un premier aveu queer un peu incertain. Donc, moi, la jeune étudiante en cinéma qui était là dans la salle, ben, tu sais, moi aussi, j'étais en questionnement et tout à ce moment-là, en lien avec ma propre orientation. Donc, ça m'a touché de voir qu'un cinéaste, parce que bon, Claude Jutras, c'est lui qui réalise le film aussi, s'incrimine hein, jusqu'à un certain point.
Oui, parce que rappelons qu'en 63, on n'était pas en 67, là, alors l'homosexualité, c'était encore criminel.
Exactement. Donc, de le faire dans un film, donc dans un film que tu réalises toi-même, dans lequel tu te mets en scène, il y a quelque chose de très courageux là-dedans. Donc, ce courage-là, ça m'a beaucoup touchée aussi. Donc, c'est une œuvre qui est restée. Puis, bien, il était une fois dans l'Est de Brassard et Tremblay. Bien, évidemment, pour moi, c'est le Montréal de l'Est. C'est le Montréal où ma grand-mère a grandi, où ma mère a grandi. Donc, je suis montréalaise d'origine aussi. Donc, au-delà de la représentation de la faune LGBT qu'on représente dans ce film-là, il y a aussi la représentation d'un Montréal que j'aime beaucoup de Montréal, si on veut, de mes ancêtres. Donc, ce film-là m'a touché pour ces raisons-là aussi.
Dans les deux camps, on présente, oui, il y a la réalité queer, mais il y a la réalité québécoise. Et c'est intéressant parce que c'était quand même, à cette époque-là, on avait comme un peu honte de qui on était, hein, de notre façon de parler, de notre façon d'être. Oui. Et là, tout à coup, c'est au grand écran.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai. Donc, il y a le fameux Joie, hein, donc, donc qui apparaît pour la première fois au théâtre. Là, pas juste au théâtre, c'est apparu aussi là, dans certains livres. J'en parle aussi là, dans le bouquin. Mais oui, donc, pour la première fois à l'écran, on assumait notre parler, qui était très coloré aussi, qui était très flamboyant. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est important pour moi de parler de la Révolution tranquille, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est un peu ça la prémisse du livre.
Oui.
Puis c'est pour ça que ben, t'sais, j'explique tout le mouvement, le « je me souviens », pourquoi c'est écrit sur nos plaques d'immatriculation. Donc, c'était cette idée-là de ramener la mémoire collective là, au sein d'un bouquin qui s'intéresse à deux classiques là, du cinéma d'ici.
Ouais. Oui, parce que je dois dire que c'est ça qui m'a beaucoup surpris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pans de l'histoire du Québec que tu relates là-dedans, à travers les films, et aussi de l'histoire queer du Québec, à travers ces deux films-là. Je pense que ça devient même un must à lire, parce qu'il y a des choses qu'on semble oublier de nos jours.
Oui, ouais, c'est vrai. C'était merci parce que c'était ça mon but. En fait, c'était vraiment de raviver la mémoire collective, là, puis de faire en sorte qu'on n'oublie pas des choses. Puis les dates très, très charnières des deux films me le permettaient. Donc, À tout prendre est sorti donc en 63. Donc, on est aux prémices de la Révolution tranquille. Puis en 74, ben, il était une fois dans l'Est. Là, on est en pleine Révolution tranquille. On vient de passer les mouvements de Stonewall en 69 aux États-Unis. Donc, ces dates-là me permettaient une analyse des films, puis comment on s'est libéré jusqu'à un certain point là, au grand écran, comment on a libéré notre discours collectif.
Au
Donc,
niveau
c'était.
queer, puis au niveau
Oui.
de l'identité québécoise,
Tout
on
à
a connu
fait.
la crise d'octobre en 70.
Oui.
Alors tout ça, c'est imbriqué, là.
Oui, donc oui, donc j'en parle dans le livre. Donc c'est aussi, tu sais, un livre, ben, je ne suis pas historienne, je
Non,
n'ai pas la
non.
prétention de me dire historienne, mais l'approche sociologique est importante pour
Tout à
moi.
fait.
Puis,
Tout à
tu sais,
fait.
de comprendre aussi que ce qu'on voit à l'écran, ben, c'est, tu sais, ça nous vient du macrocosme aussi, ça nous vient de la société. Donc, tu sais, on ne réalise pas des films en vase clos. Les films participent au discours social aussi, puis les représentations LGBT aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée avec le livre.
Ce que je trouve en fait intéressant, parce que c'est une chose, moi, que avec le regard qu'on a en 2023, des fois je regarde, je dis, mon Dieu, qu'on avait un regard misérabilisme sur ce qui nous étions, les Québécois. Et en fait, je n'ai pas vu ça ni dans le film de Jutras, ni dans le film de Tremblay. Il y avait comme on est, d'attitude, puis on n'a pas à se justifier, puis on n'a pas à se sentir mal.
Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, ce regard-là un peu misérabiliste. Puis je pense que c'est pourquoi il y en a beaucoup qui ont eu de la difficulté, peut-être en partie avec Il était une fois dans l'Est.
Tout à fait. Ah oui, plus
Donc,
que l'autre, je pense, oui.
oui, donc
Oui.
il y a cette représentation-là de qui on est, du Montréal de l'Est, de notre langage qu'on veut un peu participer à cacher, alors que ce film-là a été présenté à Cannes, mais pourtant il a été extrêmement boudé ici. Donc c'est un film qui a. Justement, contrairement à tout prendre, il a quand même été très, très boudé. Il était une fois dans l'Est. On l'a souvent résumé comme une espèce d'anthologie de toutes les pièces de Tremblay, alors que justement, c'est plus qu'une anthologie, c'est vraiment une œuvre filmée. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant là, à ce niveau-là. Donc, c'est pas du théâtre. Mais je pense que oui, c'est intéressant ce regard. Je pense qu'on a encore de la misère au Québec avec les gens que, justement, qui réussissent ou qui mettent de l'avant qui on est. Je
Oui.
pense qu'on a de la misère. On est né pour un petit pain, là. C'est un
Oui,
peu ça
oui.
notre
On
motto.
a honte de qui on est
Oui.
parfois, puis on n'a pas à avoir honte. Moi, je trouvais que ce film-là, particulièrement, me parlait. En fait, je suis allé le revoir à cause de toi.
Oui.
Tu sais, ce genre de truc qui arrive, il okay, faut que je regarde le livre. Fait que j'ai lu le livre quand j'étais à Paris, puis là, j'étais, non, faut que je revoie ça en revenant à la maison. Je dis, OK, j'ai pu voir une version en ligne, alors ça m'a aidé. Mais j'aimerais aussi revenir sur l'identité queer, parce que là aussi, l'identité queer, ce que je reproche beaucoup, c'est normal, il y a toujours eu cette approche où, oh mon Dieu, qu'on fait donc pitié d'être queer, c'est donc dur d'être queer, c'est donc misérable. Ah oh, non, non, on n'est pas là-dedans, mais pas pantoute.
Non, on n'est pas là-dedans. Puis je pense qu'il était une fois dans l'Est, il y a quelque chose d'intéressant. C'est une des premières représentations lesbiennes
Oui.
au grand écran dans le cinéma québécois. Puis c'est important d'en parler quand tu dis qu'on n'est pas là-dedans, justement. Donc, on a deux femmes quand même assez fortes, dont l'une incarnée par Denise Filiatreault, qui s'affirme, qui dit à son patron, tu sais, bon, elle l'envoie promener, elle ne se gêne pas. Puis quand elle arrive à la maison, ben évidemment, elle est bras dessus avec sa copine du moment. Puis, ben, sa copine du moment se fait ostraciser sur le balcon. Donc, il y a un moment qui est très, très fort dans ce film-là. C'est ce sentiment de honte-là, hein, qu'on va rattacher aux personnes homosexuelles à l'époque. Donc, la sortie du placard s'accompagne de ce sentiment de honte-là, même si on s'assume jusqu'à un certain point. Donc, c'est un moment qui est très fort parce que, bon, on est traité un peu comme un chien où on vient porter la gamelle au chien sur le balcon et où on a le regard un peu méprisant des voisines qui disent là, que c'est ça, ce bébite-là, hein, en bonjour. Donc, c'est un moment qui est fort, je trouve, du cinéma québécois. Puis c'est un moment qui m'enseigne seulement deux femmes. Puis Michel Tremblay a créé le personnage du sidekick d'Hélène, justement, Bec de Lièvre, pour justement présenter cet aspect-là du lesbianisme peut-être un peu plus politique qu'il y avait aussi là, à l'époque. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est un personnage qui est créé pour le film, contrairement à d'autres personnages là, qui étaient déjà créés pour
Qui
cette
était déjà
pièce.
là, oui.
Fait que, oui.
Dans le film de Jutras, on l'a dit, c'est Jutras qui se, en fait, il se met en scène. Il me semble qu'il y a cette séquence du film devant le miroir. Et
Oui.
c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent au cinéma.
Oui, tu as raison. Donc, c'est cette séquence-là où il emprunte là, plusieurs alter-égos. Donc, il passe d'un clown, il passe d'un tueur, il passe à lui-même finalement. Mais c'est cette idée-là qu'on a plusieurs identités aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il est en recherche, Hein? Qu'est-ce qui est intéressant avec le personnage de Jutra dans ce film-là, c'est que c'est encore un jeune en recherche identitaire. Puis beaucoup de films de la Révolution tranquille au Québec nous parlent de ça. Hein? T'sais, on était nés pour un petit pain à l'époque. À l'époque, on avait finalement des cinéastes étrangers qui venaient faire du cinéma ici au Québec et qui venaient nous présenter comment nous, Québécois, on devait être présentés à l'écran. La Révolution tranquille, ben c'est les cinéastes d'ici qui prennent leur caméra pour exprimer leur identité. Donc, je pense qu'à tout prendre, il y a cette caractéristique-là extrêmement importante aussi au-delà de l'identité sexuelle. C'est l'identité d'un jeune Québécois qui est à la recherche de lui-même. C'est l'identité aussi d'un jeune réalisateur, d'un jeune créateur qui est à la recherche de sa voix artistique. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce film-là.
Et c'est ça que, en fait, tu fais le lien, c'est ce que je voulais qu'on dise. Il y a quand même un lien intéressant que tu fais, que tu traces entre l'identité québécoise et l'identité queer qui se met de l'avant dans ces deux films-là.
Oui.
Je vais t'amener sur un sujet délicat, mais on n'a pas le choix d'en parler, Claude Jutras.
Oui.
Juste mentionner, je pense que les gens savent un peu que Claude Jutras est devenu un peu persona non grata à la suite d'allégations. Après sa mort, hein, il était mort, oui, quand on a sorti la biographie, d'allégations d'inconduite sexuelle, si on peut le dire. Et on a mis un peu, c'est comme si ça avait mis un peu cette œuvre-là de côté. Puis je pense, oui, que t'en parles pas mal dans le livre, hein?
Oui, j'en parle quand même. Donc, en effet, là, quand la biographie de Jutras, écrite par Yves Levert, mm-hmm, est sortie en 2016, il a commencé à avoir justement une traînée de poudre, puis évidemment, à l'ère de la cancel culture ou de la culture de l'annulation,
ben,
tu sais, Claude Jutras est passé au bûcher, au même titre que l'auteur de la biographie. Je dirais qu'il n'y a pas grand personne qui ont été épargnées, pas grand monument non plus. La plupart des monuments, la plupart des noms de rues qui mentionnaient Jutras sont disparus. C'est important pour moi de parler de ça, de l'affaire Jutras, puis pas de faire le procès de Jutras, pas de faire le procès des gens qui l'ont amené au bûcher, mais plutôt de réanimer la mémoire de l'œuvre de Jutras, parce que je pense que quand on est dans la cancel culture, le danger, c'est de justement s'attaquer à une personne, de faire son procès, puis moi, je suis pas là pour faire le procès, hein. Je pense qu'on aurait dû faire ça devant juge, etc., comme on fait dans nos sociétés. Mais je suis là pour réhabiliter la mémoire de l'œuvre. Je pense qu'en tant que critique de cinéma, c'est ça aussi, c'est l'œuvre. C'est ce qu'il a fait en tant qu'artiste. Pourquoi c'est important de s'y intéresser? Parce que c'est un film marquant de la cinématographie.
C'est un film magistral. Moi, j'irais, oui, jusque-là. Effectivement, on peut annuler les statuettes Jutras si on veut, donner un autre nom, mais de là, quand même, ce film-là, on ne peut pas le laisser de côté.
Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est dommage aussi avec toute cette façon-là dont le scandale a été traité? Puis j'en parle aussi dans le livre. Il y a le critique Matthew Hayes, qui est d'ailleurs éditeur un des deux éditeurs de la collection Queer Film Classics. Il disait, ce qui est dommage justement avec l'affaire Jutras, c'est que ça nous a éloignés de ce qui aurait dû être la discussion, c'est-à-dire une discussion plus profonde sur la pédophilie, oui, la pédophilie en société, puis pourquoi ça existe encore aujourd'hui. Ça devrait être ça, hein, ça devrait pas être d'essayer d'amener quelqu'un au bûcher, ça devrait être de s'attaquer à la problématique de fond.
Tout à fait. Julie, pourquoi 16 ans après avoir fait cette thèse de maîtrise, tu as décidé d'en faire un livre?
Ben parce que, un, c'était un rêve de jeune étudiante. Là, toute jeune étudiante rêve de publier sa maîtrise parce que, bon, il y a juste ta mère puis peut-être une amie qui est bien intéressée qui l'a lu. Fait que, première chose, évidemment, c'est par hasard, je suis tombée sur les éditeurs donc de la collection Queer Film Classics. Recherchais donc d'autres titres pour réalimenter la seconde édition là, de la collection. Et mon directeur de maîtrise, Thomas Waugh, est un des éditeurs de la collection. Donc, c'est tombé comme ça. Il voulait parler du cinéma francophone aussi, québécois. Et c'est le seul ouvrage de la collection qui est en français. Donc, en attendant,
bravo,
sa traduction.
Ouais. Bravo. Alors, je répète, À tout prendre, Il était une fois dans l'Est. C'est publié chez McGill Queen's University Press. On peut se procurer ce livre-là un peu partout, j'imagine.
Un peu partout dans les librairies, oui.
J'ai dit, bien, encore. Merci beaucoup.
Merci.